Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous allons parler collecte des ordures ménagères dans la communauté de communes du pays d'Iwa avec autour de la table Jean-Pierre Rouit. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'élu référent pour la collecte de ces ordures ménagères, justement.
Tout à fait.
Et puis Philippe Méjean, bonjour.
Bonjour.
Responsable du pôle environnement et patrimoine de la CCD. Vous avez suivi ce dossier qui date depuis déjà une belle paire d'années, 2011, on se disait ça hors antenne. Ordures ménagères, on s'en rend compte là très concrètement en ce moment puisque ça va faire quelques mois que fleurissent de partout ces jolies poubelles rondes, mais on ne peut pas s'en servir. Alors on pourrait peut-être commencer, Jean-Pierre, par un historique de cette compétence que la communauté de communes a prise.
Alors la compétence, nous l'avons depuis déjà pas mal d'années et c'est vrai qu'en 2011, il a été décidé, par la commission d'ordures ménagères et deux, par le conseil communautaire, de faire une bascule sur notre fonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde voit les petits conteneurs verts qui sont posés à l'angle des rues ou décimés dans le Diwa. On en a plus de 1300 sur le territoire. Et donc ce jour-là, il a été acté qu'on devait passer en colonne semi-enterrée. Voilà, donc c'est la bascule qui est en train de se faire. Les conteneurs sont en train de se poser sur le territoire et pour les lever, pour vider les conteneurs semi-enterrés ainsi que les colonnes de tri, il faut qu'on s'équipe d'un camion spécifique. Donc ce camion, il a été commandé et nous l'aurons au mois d'octobre, là, dans quelques mois. Et dans quelques mois, le traitement, la collecte des ordures ménagères va s'effectuer. Actuellement, nous sommes toujours sur les points de tri qui ont été effectués, on est en train de vider par ce système avec un camion que nous avons, on appelle ce camion le Kerax, nous sommes en train de vider les colonnes de tri. Mais concernant les ordures ménagères, je me répète, le fonctionnement se fera au mois d'octobre. Voilà.
Et pour quelle raison? Alors, quelle est la genèse de ce désir de changer de moyen de collecte?
Bien sûr, la réflexion que nous avons menée avec la commission d'ordures ménagères, c'était de limiter le coût qui avait tendance à, d'année en année, à prendre des proportions difficilement contrôlables. Donc pour ce faire, nous avons étudié la pose de ces colonnes semi-enterrées qui nécessitent pour les vider un camion, un chauffeur et une grue. Donc actuellement, pour vider nos bacs de 770 litres, nous avons un chauffeur, un camion et un ripper. Donc deux personnes, un camion. Et à l'avenir, nous n'aurons plus qu'un camion grutier, un chauffeur grutier. Voilà. Donc là, on pense quand même que nous allons pouvoir sérieusement penser aux économies.
Voilà, donc la compression s'est faite très clairement sur un salaire, mais même au-delà de ça, techniquement, ça va être moins coûteux quand même ces conteneurs-là.
On espère, et de plus, donc, quand on discute avec les habitants du Diwa, ils nous disent « Oui, mais vous faites la réforme, que vont devenir les rippers ?» Donc les rippers, on va les redéployer pour ouvrir les déchetteries plus longtemps dans le temps, dans les journées plus longues. Voilà.
Oui, Philippe. En fait, cette question du personnel et des coûts ne sont pas les seuls qui président à la réforme, parce que c'est central, évidemment. Sur le personnel, pour compléter, il y a un changement important des métiers qui va se faire. Il y a une professionnalisation, il y a une baisse de la mise en danger des personnels, du contact avec les produits. Donc du coup, on gagne en termes de salubrité, on gagne en termes de technicité, on gagne en termes de souplesse de travail.
De pénibilité,
de
même
pénibilité,
c'est lourd.
Voilà, c'est lourd, etc. Oui, il faut les tirer, tous les points ne sont pas faciles d'accès, etc. Donc il y a une vraie amélioration des conditions de travail, et y compris des rythmes de travail, puisqu'on va pouvoir espacer dans le temps et proposer des semaines moins larges au personnel. Donc il y a une vraie dimension sociale à cette réforme, en plus de la dimension économique qui a été soulignée par Jean-Pierre, qui est une dimension qui nous fait faire des économies, pas sur le personnel, parce que pour le coup on le réemploie à autre chose, ça se fait à personnel constant, et qui nous fait faire des économies essentiellement sur le coût de traitement de nos déchets, puisque mécaniquement, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est d'empêcher de jeter dans les futurs conteneurs des déchets trop volumineux qui n'ont rien à faire dans les ordures ménagères et qu'on trouve encore à foison dans nos bacs verts, parce qu'on peut les ouvrir et y mettre presque tout et n'importe quoi. Et quand vous jetez dans ces bacs verts, vous jetez à un prix de 300-320 euros la tonne, 32 centimes du kilo. C'est cher. Si vous triez, que vous mettez dans les colonnes de tri qui seront systématiquement à côté de ces nouveaux conteneurs ou que vous apportez en déchetterie, vous allez tomber à un prix général de vos déchets qui est aux alentours de 120 euros la tonne, 12 centimes du kilo, donc presque 3 fois moins cher en moyenne. Et c'est en faisant cette bascule, c'est en mettant de plus en plus d'ordures dans les tuyaux qui ne sont pas chers, qu'on peut faire des économies sur notre coût global de fonctionnement. Sachant qu'il y a des coûts qu'on maîtrise, ceux-là, il y a des coûts qu'on ne maîtrise pas. C'est les coûts de traitement qui ont été multipliés par, en moyenne, 2,5 au cours de quasiment de ces 10 dernières années, 2,5 à 3 fois. Voilà.
Un traitement dont on peut le rappeler, vous n'êtes pas
Alors on est compétent, acteur. Mais il est transféré au CITRAD et, mmh. et donc il y a tout un tas de raisons hein, qui sont des raisons légales, puisqu'il y a eu des contraintes légales qui ont été amenées. Il y a des raisons de réorganisation de cette structure, il y a des raisons de rater dans un certain nombre de choix, mais voilà. Les coûts évoluent et ça, on ne le maîtrise pas. Ces coûts de traitement, on ne les maîtrise pas, tout comme on ne maîtrisait pas les coûts de transport. Donc notre réforme vise aussi à minimiser un certain nombre de coûts de transport, donc en limitant les trajets. Voilà, la hausse des carburants avait eu aussi un impact important sur les coûts du service. Alors, on rappelle aussi que ce service, il est resté à fiscalité constante depuis 2006 ou 2007. Donc, ça fait 10 ans que
les taxes ordures ménagères sont toujours les mêmes.
La taxe n'a pas bougé depuis 10 ans, alors que les coûts de traitement qui représentent quasiment aujourd'hui la moitié, allez, 40% de notre budget, sont des coûts qui ont explosé dans ce même temps-là. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu un effort de gestion et de rationalisation important. Et il y a eu un effort des citoyens. Je pense que ça, c'est important de le souligner aussi, puisque même si certains trouvent qu'on ne trie toujours pas assez, ce qui est vrai, on pourrait trier plus, on pourrait trier beaucoup plus même, mais on trie de plus en plus. Chaque année, ça progresse. Et chaque année, ça nous permet de ne pas augmenter la taxe ordure ménagère, parce que la hausse de coûts qu'on ne maîtrise pas est compensée par la maîtrise des citoyens dans le geste de tri et par la maîtrise organisationnelle qu'on propose.
Je voudrais revenir sur ces ordures qu'on jetait si facilement dans le conteneur classique et qu'on pourrait trier. Est-ce que vous avez des exemples de choses qui reviennent systématiquement et que vous espérez vraiment ne plus voir vous avez fait quelques stats là.
Oui, le classique, c'est la batterie. Hein. La batterie, après tout ce qui est...
La batterie de voiture.
Batterie de voiture, et puis un peu tout ce qui a trait aux pièces automobiles. Hein. Les livreurs dans le DIWOF font beaucoup d'allers-retours matin, midi et soir. Et bien sûr, quand ceux qui réparent leur voiture, qu'est-ce qu'ils en font souvent dans le bac, voilà.
Les gros cartons qui se valorisent très bien, les déchets verts qui peuvent se composter chez soi ou se mettre à la déchetterie où ils sont
accueillis. Oui, du déchet vert. J'ai souvent vu des conteneurs vomir de déchets verts.
Des sacs 100 litres de déchets verts à l'appel au printemps. C'est, si on fait le tour dans les écarts au printemps, les zones pavillonnaires, c'est trois quarts des ordures ménagères sont des déchets verts.
Allez, question qui fâche parfois certaines personnes, le choix des emplacements de ces conteneurs qui du coup, c'était pratique, on en avait deux pas très loin de chez nous, maintenant il va falloir parfois prendre la voiture. Je prends un exemple dans mon village à Barnave, il y en avait deux partout, et bien maintenant il n'y en a plus qu'un seul endroit de collecte. Dandy, c'est pareil, hein, on voit un petit peu la différence. Pourquoi ces choix? Avez-vous des mauvais retours?
Des mauvais retours, bien sûr que nous en avons, parce que c'est une réforme, hein, donc forcément on essaye de faire de notre mieux possible, mais des fois il y a un peu des personnes qui sont réticentes. Alors je rappelle quand même que, je l'ai dit tout à l'heure, la commission d'ordre ménager a travaillé, le conseil communautaire a validé, et je rappelle que le choix des implantations de ces fameux points dits propres dépend de la commune. Voilà. Et nous, après, on est responsable de la collecte. Voilà. Mais tout ce qui est positionnement, c'est la commune qui en est responsable. Alors bien sûr, c'est un travail qui a été fait avec les services, hein, les services de la Comcom, les élus communaux qui se sont chargés de trouver ces fameux 10 points propres. Et les contraintes, il y en a aériennes, les arbres, les lignes électriques, et il y en a dans le sol. Aussi les lignes électriques, les canalisations d'eau, d'assainissement, tout ça, ça a été pris en compte.
Et autres trouvailles romaines.
Ouais.
les Romains sont trop bas pour être impactés. On trouve plus bas que le fond des conteneurs.
Ah bon.
Voilà. Certaines communes donc, ont fait le choix de concerter. La règle, c'était d'avoir au minimum un point propre par commune. Et pour les communes de plus de 100 habitants, au minimum un point propre pour 100 habitants. En tout cas, un conteneur semi-enterré, si vous avez 200 habitants, vous pouvez choisir de tous les mettre ensemble, vos conteneurs, ou d'avoir deux points. Mais, l'idée, c'est ça. donc pour nous permettre, nous, d'avoir de la souplesse dans les tournées et rationaliser, en fait, les collectes, quoi. Pas rentrer à vide.
Voilà, et puis on le rappelle, donc ce sera plus qu'un camion. Évidemment, là aussi, il y a une autre vraie économie, c'est que ça va être beaucoup plus rapide à collecter. Seul, on peut imaginer que ces points ont aussi été pensés pour que ça se fasse facilement.
Alors, à volume égal, ça va être à peu près le même temps de collecte, puisqu'il y a quand même un travail de manutention de grue qui prend du temps. Voilà, même si on a fait le choix d'un matériel sécurisé, automatisé, donc qui va bien aider les personnels à la fois sur la qualité du travail pour éviter d'avoir des chocs, etc., et à la fois sur la rapidité de ce travail. Bon. Après, on pourra gagner du temps si on a une diminution du tonnage d'ordures ménagères qui est mis dans ces nouveaux conteneurs au profit de tout ce qui va être mis dans les conteneurs de tri ou dans les déchetteries. Et c'est là la vraie économie. Donc les retours d'expérience qu'on a d'autres collectivités, puisqu'on n'est pas les premiers à faire ça, hein, donc on a des voisins qui ont fait ça, on a vu récemment nos amis de Diolfi, eux, ils ont eu une diminution de 20% de leur collecte d'ordures ménagères et ils ont retrouvé la totalité des volumes dans le tri ou en déchetterie. Voilà. Alors il y en a un petit peu les premiers jours du nouveau service qui se retrouve aussi à côté des nouveaux bacs ou à l'endroit des anciens bacs. Donc il y a des manifestations auxquelles il faut s'attendre, hein, autant le dire, c'est partout pareil, ce qu'on appelle un pic d'incivilité qui a lieu, mais on s'aperçoit en tendance que partout où ça s'est fait, partout on est attentif à faire passer les messages, à être un petit peu actif en disant attention, ça ne se fait pas, c'est un délit, c'est sale, ça ne respecte pas le travail des agents, ça ne respecte pas les efforts que font 95% de la population, parce que ça touche une fraction très faible de la population. La plupart des gens se conforment au nouveau service assez facilement. Mais on a un pic d'incivilité, on aura un pic d'incivilité comme partout. Donc il faut s'y attendre et être attentif tous à bien le gérer.
Cette question de l'éducation populaire un petit peu quand même sur la gestion qu'on a ou qu'on doit avoir de nos déchets, est-ce que ça faisait partie aussi de vos missions là, en plus de cette commission vraiment presque technique, hein, j'allais dire, de mise de nouvelles
Oui, tout à fait. Ça a été réfléchi aussi au sein de la commission d'ordures ménagères où nous avons décidé de nous doter de deux ambassadrices de tri qui vont arpenter les rues de Die et certains quartiers d'ici quelques semaines. Voilà. Donc on est en train de préparer un peu leur travail, leur façon de s'organiser et puis surtout d'avoir une bonne communication vis-à-vis des ménages.
Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces ambassadrices?
Simplement rappeler les gestes de tri, parce que c'est vraiment la base, c'est... trions plus, économisons. Si on devait retenir un seul slogan, c'est celui-là. En triant, on fait des économies et on a évidemment un impact environnemental intéressant dans le cadre d'une réforme qui est socialement aussi intéressante pour nos agents. Voilà.
Ah, mais comment concrètement?
Alors, comment?
Elles vont être où? Par exemple, devant les poubelles? Ah, attention!
Alors...
Ou alors aller faire des réunions d'information
du porte-à-porte.
Alors, du porte-à-porte.
Ah ouais.
Du porte-à-porte avec donc il y a un guide de tri qui est en cours de conception qui sera diffusé. Il y aura sûrement des magnettes aussi qu'on pourra mettre sur son frigo pour rappeler les consignes de tri. On est en train de revoir toute la signalétique sur les conteneurs, soit en cours de révision pour les colonnes dites aériennes, celles qu'on connaît aujourd'hui et qui permettent de trier.
Elles y seront encore d'ailleurs, celles-ci?
Les communes ont fait le choix d'enterrer ou de ne pas enterrer les colonnes de tri. Donc selon les communes, il y en aura d'aériennes ou des semi-enterrés. Donc ça dépend des lieux. Voilà, cette signalétique sur les colonnes. Et puis, on a mis en place un bulletin d'information toute boîte. Le premier est arrivé en décembre dernier pour dire, voilà, vous voyez arriver des gros engins, voilà à quoi ça va servir. Il y en a un qui, qui va paraître là dans les jours à venir, qui va rappeler les consignes de tri en disant que ces conteneurs semi-enterrés de tri sont en service à deux ou trois exceptions près, là où le camion ne peut pas encore accéder parce qu'il faut attendre le nouveau camion pour faire de la collecte dans certains cas. On pense à la place du Mazel, par exemple, juste à côté de nous. Ben, elle ne pourra être collectée qu'avec le nouveau camion. Les camions dont on dispose aujourd'hui ne permettent pas cette collecte. Ils ne passent pas simplement dans les rues. Voilà. À deux, trois exceptions près, ce tri est en service partout pour cet été. Et voilà, les messages sont simples. Donc, on va rappeler les fondamentaux puisqu'on, même nous qui baignons dedans tous les jours, même nos gardiennes déchetterie, il y a une actualisation permanente des consignes de tri puisque les filières de recyclage et de valorisation se mettent en place tous les jours et augmentent le champ des objets qu'on peut trier. Donc c'est important de savoir ce qu'on peut trier et de rabâcher ce message pendant des années. Voilà. C'est ce qu'on va faire.
Et puis, alors, j'entendais, je voulais remettre un petit point dessus. Les agents vont être remobilisés, ceux qui, en tout cas, ne travaillent plus à... C'était quoi, la bascule ? C'est le ripage.
Le reaper,
ouais, bon, en anglais, quoi. Celui qui bascule. vont aller, donc, renforcer les équipes de déchetterie, donc une amplitude plus grande. Est-ce que, déjà, vous avez une idée de cette amplitude horaire d'ouverture ?
Alors, certains reapers vont être dédiés aux déchetteries, mais d'autres sont en train de passer le CACES pour justement pouvoir faire chauffeur grutier. Voilà. Alors, pour eux, c'est quand même un challenge important, hein, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un changement de métier. Donc, ils sont très, très, très à l'écoute. On les mobilise, on a des réunions de travail avec eux et on est conscient que cette fameuse réforme ne peut passer qu'avec eux. Voilà, parce que c'est un nouveau métier pour eux, ça sera des nouvelles conditions de travail, ils seront tout seuls dans les cabines, hein, janvier, février, quand il faut aller à Saint-Nazaire-des-Airs, la Motte-Chalancon et ailleurs, c'est, pour eux, ça va les changer. Voilà.
Alors, sur la question de l'amplitude horaire oui. des déchetteries...
C'était ça voilà. Mais c'était bien répondu, Jean-Pierre, j'étais embrouillé là.
Non, mais je t'avais vu que tu avais même perdu ta question.
Ouais.
Donc,
voilà,
je
j'avais
me
passé
permets
une autre,
de la rappeler, donc il y a des auditeurs au bout du fil.
Ouais.
Voilà. Donc, du coup, l'idée, c'est de l'augmenter. Donc, sur 10, la réflexion, c'est le passage de 5 jours. Actuellement, on a 10 demi-journées réparties sur 6 jours à 6 jours pleins. Et puis, sur les autres déchetteries, on se pose la question de l'extension de cette amplitude horaire, notamment des ouvertures plus systématiques peut-être ou plus longues les samedis, où on sait qu'il y a plutôt de l'affluence. Donc c'est en cours de réflexion puisque ça engendre aussi des questions sociales. Ouvrir le samedi, ben ça enlève un demi-week-end. Donc on est en train de regarder, vu que les métiers se spécialisent, on ne peut pas avoir des remplacements aussi facilement et aussi fréquemment qu'on pouvait les avoir avant d'un métier à l'autre. On réfléchit à monter un service de qualité aussi pour les agents, tout comme on le souhaite de qualité pour les usagers. C'est-à-dire qu'on a appelé ces nouveaux points des points propres. L'idée, c'est que collectivement, on puisse tous faire un effort pour qu'il le reste. Donc nous nous organisons avec un service de maintenance. Aujourd'hui, vous avez un bac vert qui est inutilisable parce qu'il est ventré, par exemple. Ce n'est pas gênant, vous en avez toujours un à proximité. Demain, votre conteneur semi-enterré ne fonctionne pas. S'il n'y en a qu'un sur la commune, ça devient gênant. Donc l'idée, c'est que la maintenance soit rapide, efficace, qu'on ait un entretien préventif, ce qu'on n'avait pas toujours bien fait sur notre parc, hein, on l'a laissé vieillir sciemment ces 5 dernières années, donc là il est vraiment en piteux état, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose de préventif.
Donc là aussi un emploi d'ailleurs, hein, à chaque fois.
Alors oui, il y a un des emplois qui se transforme en emploi de maintenance et d'entretien sur ces services-là, et d'entretien également et de maintenance sur les sites de déchetterie, qui appellent un vrai travail pour qu'il y ait une qualité d'accueil. Alors, on ne maîtrise pas tout. Hein. Ce sont des sites qui sont fréquemment vandalisés. C'est jusqu'à 2-3 fois par semaine en ce moment. Donc, il faut savoir que c'est pas toujours c'est loin d'être de notre fait si le site est en mauvais état.
Oui, ouais, voilà. Mais justement, j'abordais cette question-là parce qu'on sait que les déchetteries sont visitées régulièrement, y compris en dehors des heures d'ouverture, parce que des fois, on ne peut pas récupérer tout ce qu'on voudrait, parce que tout simplement, c'est fermé, ça ne convient pas. Une plus grande amplitude horaire serait une solution. Est-ce que, concrètement, vous avez déjà envisagé le fait de faire garder ces espaces-là et pourquoi d'ailleurs ne peut-on pas y aller quand on veut récupérer ce qu'on veut ? Voilà, tiens, je vais faire les deux questions. Ceux qui veulent la fermer et la protéger, peut-être, et ceux qui voudraient y aller.
Alors, dans les déchetteries, on est soumis quand même à certaines sécurités. Pour ceux qui apportent leurs déchets, on leur doit une sécurité. C'est-à-dire qu'il faut que les bennes soient bien à l'emplacement prévu. Il faut pas qu'il y ait... On a des garde-fous, il y a des bennes, il y a des hauteurs, il y a des quais sont en hauteur, donc on a une certaine sécurité. Après, il y a des manœuvres qui se font à l'intérieur des déchetteries aussi. Hein. Les voitures qui avancent, qui reculent, qui tournent, tout ça. Donc la sécurité, pour nous, c'est quand même un point très, très, très important. Et c'est pour ça que les gardiens de déchetteries sont briefés là-dessus aussi. Et après, ouvrir... on a des exemples sur 10 qui ont été mis en place. Hein, la dernière chose qu'on a travaillée en commun, c'était pour la récupération de jouets pour l'école de Chabestin, je crois, hein, c'est ça. Quand on nous demande, on essaye de trouver des solutions, mais quand on a affaire à des personnes qui viennent le soir ou le week-end, qui cassent le portail et la chaîne et qui font des dégradations, le préposé, le lendemain, il arrive, donc il en a déjà pour 3 heures, tout remettre en ordre. Et puis, dans les conditions, quand il y a des éclats de verre un peu de partout, c'est pas très... élogieux pour le gars, quoi, pour le préposer. Alors, un exemple, la semaine dernière, déchetterie de Die, on a été visité 2 fois, et celle de Luc, 1 fois. Voilà. 3 plaintes à gendarmerie. Malheureusement, on est obligé d'en arriver là. Et bon, on va passer un été certainement qui va être très très chaud au niveau des visites.
C'est vraiment du vandalisme ou c'est de la, de la récup?
Il y a de la récupération, mais qui est plus qu'artisanale à certains moments.
C'est pour le plaisir d'aller délirer dans une déchette, enfin, je veux dire, franchement.
Ben, pour aller récupérer des matériaux qui sont revendus, notamment tous les matériaux métalliques aujourd'hui ont une valeur qui engendre ces dégradations. Alors pour compléter aussi cette question-là, pourquoi fermer tout le temps? C'est-à-dire que une déchetterie, c'est un lieu où on essaie de trier avec application. Et aujourd'hui, les consignes sont de plus en plus complexes. Un même pot de peinture, selon qu'il vient d'un professionnel ou d'un particulier, ne part pas dans la même filière de recyclage. Donc si vous laissez les gens venir à toute heure et déposer ce qu'ils veulent à toute heure, le travail pour le gardien le lendemain va être infernal à remettre les choses en place. Et si le travail n'est pas fait, derrière, c'est la valorisation qui ne peut pas se faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un revenu ou un prix de base pour l'évacuation de nos déchets, on va avoir une pénalité. Voilà.
Imagine le citrate qui augmente encore derrière.
C'est pas le citrate, là.
Ah oui, c'est carrément ceux qui rachètent les
filières de tri avec le citrate, il n'y a pas de problème, au contraire. C'est un centre de valorisation qui marche bien, etc. Non, il y a des filières très spécialisées, hein, que ce soit sur les ampoules, par exemple, que ce soit sur tous les matériaux dits dangereux, déchets dangereux, des ménages. On voit apparaître aujourd'hui le mobilier, qui est une vraie source de revenus pour nous. Hein, ce sont des bennes qu'on valorise. Donc si on fait mal le tri, on ne récupère pas les recettes qui vont avec. Et si on se laisse vandaliser, on ne récupère pas les recettes. C'est-à-dire que les efforts que vous avez faits en tant qu'usager, on ne les retrouve pas dans notre budget. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de se mettre plutôt en défense qu'en ouverture. Ensuite, est-ce qu'on pourrait réemployer localement des matériaux qui arrivent en déchetterie? La réponse, c'est que ça se fait déjà à la bonne franquette. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, qui récupèrent les déchets verts, la totalité, hein, puisque tout le compost part chez des agriculteurs. Mais quand on va sur le tas de bois, il y a des gens qui viennent, qui récupèrent des vieilles menuiseries, des choses comme ça. On est attentif à ce que ça puisse se faire dans des conditions normales de sécurité et non industrielles. C'est-à-dire que ça ne nous enlève pas la recette. Là, en l'occurrence, c'est un coût. L'évacuation du bois, bon, mais voilà, c'est...
Oui, ça, il ne se valorise pas, ce bois jeté.
Non, voilà, donc bon, si les gens prennent, c'est tant mieux. Voilà, s'il y a des objets réemployables, c'est tant mieux, même s'ils sont métalliques. Les gardiens ont cette attention, mais ce n'est pas leur métier. Donc, dans la réflexion, et l'échéance, c'est 3, 4, 5 ans, c'est d'avoir peut-être une recyclerie si on trouve les partenariats et le modèle économique qui permettent de la mettre en place. Sur un nouveau site, parce que nos déchetteries actuellement ne sont pas faites pour organiser du recyclage, du réemploi, simplement d'avoir un circuit à part, sécurisé, à la fois pour les personnes qui vont aller chercher les matériaux et pour les endroits de stockage, et pour ceux qui viendraient choisir ensuite. Donc il y a tout un travail de réflexion et d'adaptation à faire.
Philippe Méjean et Jean-Pierre Rouit, pour parler des déchets, de leur collecte, de leur gestion sur la communauté de communes du pays d'Iwa. Je pense que c'était important là de rappeler ça. Moi, je ne m'étais même pas posé la question qu'une déchetterie n'était pas forcément un espace d'échange et qu'au contraire, vous pouviez, finalement ça me paraît évident maintenant, mais valoriser l'ensemble des bennes qui sont récupérées et donc faire rentrer ça dans, j'imagine, l'économie générale de cette collecte. Oui, on rachète bien le cuivre, on rachète pas mal les gaines électriques, hein, j'ai entendu ça, mais en fait tout le reste se vend, le métal à la tonne, les gravats, tout ça. Qu'est-ce qui est valorisé dans une déchetterie, qu'est-ce qui rapporte?
Tout ce que vous triez en déchetterie trouve derrière une filière de valorisation à part les encombrants. C'est-à-dire que les bennes encombrants, alors qui sont celles qui débitent le plus encore, malheureusement.
Ouais, et puis c'est n'importe quoi dans ces bennes encombrants.
Vont en enfouissement. Ça peut être n'importe quoi selon ce qu'on y met. Donc là aussi, le travail du gardien est primordial pour vous orienter et vous dire « Ah mais ça, mettez-le là parce que ça va être dans une filière de valorisation alors que les encombrants vont à l'enfouissement aujourd'hui directement. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récupération possible. Mais par contre, toutes les autres bennes qui sont triées ont des filières de valorisation et dans notre guide du tri, on mettra justement ce que deviennent les objets que vous avez jetés au bon endroit.
Ces encombrants, c'est souvent parce que c'est des alliages. Il y a un peu de métal, un peu de tissu, un peu de plastique, un peu de... Parce que moi, je vois des chaises plastiques, par exemple, de jardin dans les encombrants.
Alors c'est pas recyclable. Depuis début juin, vous avez des bennes qui sont de la filière dite écomobilier, donc qui a été mise en place récemment.
Surdit.
Sur 10 uniquement. Donc on va voir, on le fait en test cette année-là. On verra, après c'est une question de nombre de quais disponibles sur les autres déchetteries et de rotation de bennes à organiser. Mais aujourd'hui, au lieu de payer un enfouissement d'encombrant, on récupère une rémunération sur ces bennes. Et là, vous pouvez mettre tout type de mobilier. C'est-à-dire tout ce qui sert à s'asseoir, tout ce qui sert à poser, tout ce qui sert à ranger et à dormir, je pense. Voilà, le quatrième.
Toute matière confondue,
même si c'est des mélanges, ce n'est pas un problème. La filière des producteurs s'est organisée pour tout récupérer, séparer les matériaux et les revaloriser derrière.
Ah bah voilà, une vraie et nouveauté. Juin, c'est maintenant en fait. Ah
ouais, ça bouge tous les jours.
Ah bon, bah voilà, fallait le dire.
Et demain, peut-être le polystyrène, etc. etc. Ah ouais, Là, on manque de quai en fait. On commence à être à l'étroit. On est en train de finir la réforme de la collecte. La prochaine étape dans le service déchets ménagers, c'est la réforme des déchetteries, avec leur aménagement, en conséquence de tous les flux qui sont en train de naître et de se développer, et qui vont plus encore se développer, puisque les gens vont respecter les nouvelles consignes et les nouveaux tuyaux qui seront trop petits pour jeter tout et n'importe quoi. Donc on aura en moyenne 20, 30, 40% peut-être de plus de flux en déchetterie dans les prochaines années.
Jean-Pierre.
Et nous sommes aussi en train de calculer sur l'identité du territoire. C'est-à-dire que les personnes qui vont se présenter dans nos déchetteries auront une carte comme quoi ils sont bien en appartenance au territoire. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de personnes qui venaient d'ailleurs. Voilà. Alors est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Nous, la commission a dit non, ce n'est pas normal. Donc on va travailler en ce sens.
Est-ce que ça soulève la question de collectivités mitoyennes qui n'ont pas de service adapté
ou un service peut-être trop adapté et du coup
y a trop fermé du coup.
Et du coup il y a des fuites. Voilà.
Ah voilà. Donc comme on dit, la merde des autres restera là-bas. Non mais c'est effectivement un vrai problème. Ça, statistiquement vous avez des.
Tout à fait.
Et on pense plutôt à des professions particulières, des déchets qui coûtent cher quand on les amène en déchetterie.
Bah c'est surtout les le matin, lorsque les artisans de la vallée arrivent sur le Diwa. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est flagrant. Hein.
Ouais,
voilà.
Bon. C'est ça. On fait les chantiers là-bas, puis on vient vider ici. Voilà. Ok, bah, ça, c'est une belle mentalité.
Ouais.
on sait aussi qu'un certain nombre de ces déchets sont parfois encore jetés un peu sauvagement. Justement, je venais de l'aborder, parce que lorsqu'on est artisan, lorsqu'on est professionnel, on paye quelque chose en fonction de ce qu'on rapporte, si je ne me trompe pas. Éclairez-moi.
Si vous êtes professionnel, aujourd'hui, vous êtes tenu de facturer à vos clients le coût d'élimination des déchets générés par votre chantier.
Ah voilà, c'était pas le cas avant, mais...
En général, vous avez une ligne en bas de vos factures qui dit que le professionnel aura un coût de gestion de ses déchets. Dans le Diwa, comme dans la moitié des collectivités en France, on n'a pas encore mis en place ce que la loi de 1993 nous oblige à faire, c'est la taxation spécifique des déchets qui viennent des professionnels. On ne l'a pas mis en place pour différentes raisons qui sont assumées aujourd'hui politiquement. Hein. Il y a la complexité de le faire et le coût pour le faire. Il y a aussi une volonté de ne pas matraquer. Par contre, il faut qu'on surveille les abus. Et les abus, ils peuvent venir un peu de chez nous. Donc ça, on a travaillé. Ça a été la première chose qu'on a faite il y a 4 ans maintenant. C'est de mettre en place pour les gros producteurs de déchets professionnels un accompagnement pour trouver les bonnes filières et venir en déchetterie plutôt que d'utiliser les bacs verts, parce qu'on sait que ça nous coûte déjà nettement moins cher. Mettre l'accent sur le tri, diminuer leurs déchets. Donc on a vu une baisse, et ça fait partie des économies. Je n'ai pas souligné le rôle que jouent les entreprises dans les économies qu'on a faites ces dernières années, mais ça fait partie des économies qu'on a faites parce que les professionnels ont mieux trié. Et en plus, ils ont été taxés sur l'enlèvement des bacs verts quand ils souhaitaient les garder pour eux-mêmes. Voilà. Donc ça, ça fait partie de l'équilibre du service. Ensuite, il y a ceux qui viennent de l'extérieur. À l'extérieur, dans bien des cas, les professionnels payent. Donc c'est avantageux de mettre en bas de sa facture que le déchet est à un coût. Et si on peut aller le vider à un endroit où il n'y a pas de contrôle d'accès et où il n'y a pas de coût,
ah bah voilà.
On peut le faire. Voilà, et on le fait.
Enfin, c'est ouais, je comprends mieux maintenant.
C'est bassement humain. Voilà.
Ouais, voilà. Bassement. Effectivement, ce coût-là existe. Moi, je l'avais vu en place. J'étais en Savoie à l'époque. Il ne se pratique pas ici. Et voilà les abus.
Alors, il se
c'est
pratique.
Une explication.
Pour certains professionnels, et pas pour tous, les professionnels d'accueil du tourisme, les campings, les centres d'hébergement, ont une redevance spécifique. Là, la question n'est pas diffuse. C'est un doublement du volume d'ordures ménagères, voire un triplement dans certaines semaines entre la saison basse et la saison haute. Donc pour nous, c'est l'obligation d'avoir un camion de plus, du personnel en plus à l'année. Hein. Donc on a un vrai surcoût lié à cet afflux touristique, chacun produisant son petit kilo d'ordures ménagères tous les jours. Quand vous mettez 10 000 personnes, ça fait 10 tonnes par jour. Donc il faut les évacuer.
Des rendez-vous peut-être pour la population, un site internet.
Le site internet est d'aplomb, évidemment. Le rendez-vous principal, c'est octobre pour le changement de système. Mm-hmm. Mais le rendez-vous, il est quotidien. On a dit tout à l'heure, trions moins, économisons. Avant même de trier moins, on pourrait donner un message complémentaire. Jetons moins, c'est-à-dire que partout où on peut éviter d'acheter des choses suremballées, évitons-le. Partout où on peut éviter de produire un déchet parce qu'on peut réemployer des matières chez soi, je pense aux déchets verts notamment. Mais il y a d'autres matières qu'on peut aussi éviter soit d'acheter, soit de jeter. Et ben, réutilisons avant de jeter si on peut. Voilà.
On peut faire de l'isolation avec des habits, par exemple. Ça marche très, très bien.
Ah,
ouais. À la place de la Watt qui vient d'Allemagne. Non, Jean-Pierre
Non, moi je voulais simplement dire que depuis 2011, on est sur ce sujet-là. Donc on a absolument besoin de tout le monde pour que ça marche. Tout le monde, il faut que tout le monde mette du sien et que ça peut marcher que si tout le monde va dans le même sens. Je pense que nous sommes dans le Diwa pour que le Diwa, là, bon, les beaux jours arrivent, les vacances arrivent, les touristes arrivent. Donc il faut quand même qu'ils aient des souvenirs, des photos qui soient belles, qui ne soient pas entachées par les conteneurs à moitié cassés, sans les couvercles et avec des points propres qui soient dégueulasses. Non, on ne peut pas raisonner comme ça. Donc je pense que c'est le... Il faut que tout le monde s'y mette. Et donc, pour nous, c'est quand même un pari, un enjeu énorme. Hein. Je me répète, mais on y travaille depuis du temps. On essaye d'aller dans les bonnes lignes. On ne sait pas. On est allé voir les territoires voisins. On s'est renseigné. Vraiment, si on fait ça, c'est qu'on y croit. Et on a besoin de tout le monde pour que ça réussisse. Et surtout, des élus, des conseillers municipaux.
Je reviens juste sur la question du suremballage. Alors là, politiquement, vous y mettez beaucoup d'énergie pour qu'on trie enfin mieux nos déchets, voire même qu'on ait une réflexion sur en produire moins. Et puis à côté de ça, le suremballage continue. Quand est-ce que politiquement ça bougera là-dessus? Est-ce qu'une communauté de communes pourrait interdire à des magasins de suremballer, de distribuer encore des sacs plastiques?
Nous agissons là où nous pouvons. Ouais. Et en priorité, là où les efforts vont porter les fruits le plus rapidement et le plus massivement possible.
Donc rendre les gens acteurs.
Oui, je pense que là, pour le coup, l'usager a beaucoup plus de poids que le politique. C'est-à-dire que le politique, il aurait du poids sur la réglementation nationale. C'est la réglementation qui ferait changer radicalement les choses. Ou alors, comme ça s'est vu en Angleterre et dans d'autres pays, des actions de masse de citoyens qui laissent leurs emballages systématiquement sur les comptoirs. Mais il faut que ce soit une action d'amplitude nationale. C'est-à-dire que localement, on peut peut-être faire réfléchir tel ou tel magasin, c'est pas impossible, mais c'est pas un seul magasin qui va négocier avec Coca-Cola ou Nestlé ou pour changer les modes d'emballage qu'ils proposent. Voilà, c'est une évidence.
Donc c'est bien à nous d'arrêter d'en acheter, voire de les laisser sur place, et puis peut-être que la réglementation bougera, ou du moins les industriels bougeront avant la réglementation.
Voilà, ce qui n'empêche pas que localement, on peut peut-être, pour certaines filières d'emballage, organiser des systèmes de consignes, etc. Mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, et aujourd'hui, l'énergie qu'il faudrait y mettre pour le résultat qu'on pourrait obtenir n'est pas en rapport avec ce que nous faisons là. La priorité, c'est le changement de conteneur pour trier mieux, trier plus. Et demain, les déchetteries pour réemployer au mieux. Voilà.
Ça, c'est... L'exemple qu'on parlait l'autre jour en commission, c'était le verre. Le verre, on a intérêt aujourd'hui à le mettre dans une benne à verre qui est dédiée à ça. Il repart, les verres sont lavés, ils passent dans le four et ils sont de nouveau une deuxième vie en bouteille. Alors pourquoi ne pas passer directement aux bouteilles consignées? Mais non. Parce que ça engendre beaucoup de choses. Bon, il faut les laver, mais mieux que ce qu'on les lave avant de les remettre au four. Voilà, donc ce n'est pas du tout évident. Hein. Et ce travail-là, la commission d'ordre ménagère, à chaque fois, on en parle. Mais les solutions, Philippe l'a expliqué. Il faut voir avec les gros producteurs. C'est pas du tout facile.
Oui, et puis ce nettoyage, ça a déjà été abordé notamment avec des brasseurs du coin ou une certaine cave. Il est compliqué pour eux de nettoyer, de les rendre stériles.
Voilà.
Pour une nouvelle utilisation. Sur le verre, il n'est pas aussi dit que ça sert beaucoup à faire de la laine de verre, dont on essaie de se débarrasser de temps en temps dans le bâtiment.
Là, je n'ai pas compétence.
On ira chercher nous-mêmes.
Oui.
Jean-Pierre Witt, élu référent à la collecte des ordures ménagères pour la communauté de communes. Philippe Méjean, responsable du pôle environnement et patrimoine. Ce sera le sujet d'une d'une autre interview, ça peut être. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Pour
Merci.
Cette présentation et à la prochaine.
Voilà. Merci bien.
Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.